Bonsoir et merci Hervé Gardette. En effet, dans quelques minutes, eh bien, c'est le rendez-vous. Une émission virtuose ce soir avec le violoniste Teddy Papavrami et le metteur en scène et chorégraphe Akedji Maro. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Vous écoutez France Culture, il est 19h. Hey, Stanislas Vazak, bonsoir.
Bonsoir. Regain de tension en Ukraine au lendemain des violents combats qui ont éclaté dans la région de Marinka près de Donetsk. 26 morts, 16 séparatistes pro-russes, 5 civils et 5 soldats ukrainiens. Kiev dénonce une offensive majeure orchestrée par Moscou. Le président ukrainien Petro Poroshenko agite même la menace d'une guerre totale avec la Russie. Le Kremlin parle, lui, de provocation ukrainienne. Ces combats sont les plus violents survenus dans le Donbass depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. C'était le 15 février dernier. La polémique entre la société Orange et Israël. En visite hier en Égypte, Stéphane Richard, le PDG de l'opérateur Télécom, avait annoncé son intention de mettre fin au contrat liant Orange à l'entreprise israélienne Partner. Partner, un opérateur présent dans les territoires occupés. Colère en Israël, où l'on accuse Orange d'avoir cédé aux pressions d'organisations pro-palestiniennes qui veulent mettre l'État hébreu au banc des nations. Ce soir, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou fustige une décision malheureuse et demande au gouvernement français de condamner les agissements d'Orange. L'Angleterre est prête à accueillir le Mondial 2022 de football à la place du Qatar. Déclaration aujourd'hui du ministre britannique des Sports, John Whittingdale, qui explique que son pays dispose de toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir la compétition. Le choix du Qatar est bien sûr fragilisé par le scandale de corruption qui agite la FIFA. Sepp Blatter, son président démissionnaire, était un fervent supporter du minuscule émirat gazier. À Doha, on estime au contraire que ce scandale ne remet pas en cause le Mondial qatarien. En France, François Hollande relance le débat sur les langues régionales comme le corse, le breton, l'alsacien ou le catalan. Le président annonce un projet de loi constitutionnelle visant à ratifier la charte européenne des langues régionales. Un texte signé par Paris en 1999, mais pour qu'il entre en application, il faut que le Parlement le ratifie, ce qui nécessite une révision constitutionnelle, car la constitution de 1958 fait du français la langue de la République. En tout cas, le sujet fait débat à gauche pour Jean-Luc Mélenchon. L'initiative de François Hollande est une nouvelle agression contre l'unité et l'indivisibilité de la République. La météo demain, un temps beau et chaud avec un risque orageux sur une partie de la moitié nord. Cette dégradation arrivera par l'ouest et pourra donner des orages sur le quart nord-ouest des Pays de la Loire à la frontière belge en passant par l'Île-de-France. Partout ailleurs, il fera beau. Les températures maximales, 17 à 25 degrés sous les nuages, 29 à 33 sous le soleil et même 35 degrés en Rhône-Alpes et en Bourgogne.
Et sous le soleil, hey, exactement, qu'est-ce qu'il y a?
Hey Laurent Goumard,
merci.
Rendez-vous.
Et quand la lune viendra, ce sera à vous. À 22h pour le journal de la rédaction. À tout à l'heure, Stanislas Vazak.
Le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Et tout de suite, le rendez-vous. Jeff Mills versus Bartok, c'est impressionnant ce soir dans le rendez-vous. En direct sur France Culture, il sera question de Buteau, de Caprice, de Paganini, d'Ismaël Kadare, de Carlota Ikeda et même de Kill Bill. Avec Teddy Papavrami pour un concert au Bouffe du Nord à Paris, au programme de ce violoniste virtuose. Notamment, eh bien, ce sera la sonate à Kreutzer de Beethoven, réputée incompréhensible à l'époque pour le public. Émilie Chaudet.
À l'âge de 44 ans, il a quasiment consacré 40 ans de sa vie au violon en cultivant un goût pour ce qu'il appelle le geste musical et les œuvres incomprises. Il nous interprétera dans très peu de temps le Caprice numéro 9 de Paganini en direct du studio 108.
19h30, place nette à Xavier Delaporte pour sa chronique Place de la Toile. Ce soir, à votre programme, Xavier.
Je crois que j'ai découvert une nouvelle strate du temps.
Parfait. 19h35, plateau cher avec Akedji Maro pour deux pièces chorégraphiques placées sous le signe d'un Buteau cubiste, Émilie Chaudet.
Un fou au cinéma, un audacieux sur la scène théâtrale et chorégraphique, retour sur le parcours d'un chorégraphe qui fait du Buteau une danse de la quête d'identité, un art, dit-il, de tenir debout.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez, que l'on ouvre d'abord sur le son du jour.
fait.
Vous avez voulu aussi briser un tabou avec une histoire de deux femmes qui s'aiment?
Non, moi, les travaux, ça fait 50 ans que je les brise. Hein. C'est pas hier, hein, parce que là, vous avez l'impression que vous parlez de moi comme un écrivain, un jeune écrivain, pas du tout. J'ai 75 ans et ça fait donc...
Je voulais dire un tabou de plus, Rachid, un tabou de supplémentaire.
Vous ne l'avez pas dit, un tabou de plus. Donc oui, mon premier roman, c'est l'histoire d'un homosexuel masculin, disons. La répudiation, c'est l'histoire de mon frère, d'ailleurs. Et donc, il s'est suicidé à cause de l'oppression de la société. Les sociétés arabo-musulmanes, comme vous dites, sont encore très retardataires.
Bonsoir Zoé Saez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour.
Il date de l'été dernier, c'est une interview à la télévision algérienne de l'écrivain algérien Rachid Boudjedra, à l'occasion de l'apparition de son livre Printemps, qui racontait une histoire d'amour entre deux femmes algériennes. Et alors il vient de briser cette semaine un autre tabou, toujours à la télévision, dans l'émission Mahama, qui doit être diffusée prochainement et dont la bande-annonce a été dévoilée lundi. L'écrivain algérien a avoué son athéisme. Au nom de ma mère, je jure de dire la vérité, toute la vérité, je ne crois pas en Dieu, ni en la religion. Musulmane. Je ne crois pas en Mohamed comme prophète. Si je devais choisir une religion, ce serait le bouddhisme pour son pacifisme. Et l'auteur d'ajouter que de nombreux Algériens sont comme lui athées mais n'osent pas l'afficher, dit-il, par peur de l'opprobre de la société. Une déclaration extrêmement commentée dans un pays où l'islam est religion d'État, même si la Constitution reconnaît la liberté de culte et où l'apostasie est passible de prison. Et tout cela à quelques semaines du début du Ramadan, les réseaux sociaux se sont déchaînés. Si certains ont salué la démarche de l'écrivain, plusieurs prédicateurs salafistes ont réagi de manière extrêmement violente.
Tout de suite, on passe au dossier du jour. Demain, c'est le coup d'envoi à Cannes du marché international du disque et de l'édition musicale, le MIDEM, qui est à peu près au secteur musical ce que le Festival de Cannes est au cinéma. Tous les acteurs du secteur seront bien sûr présents et ce sera l'occasion pour eux de débattre de deux grands enjeux auxquels ils sont confrontés, le développement du streaming musical et la question du droit d'auteur numérique.
Oui, alors parlons tout d'abord du streaming, ce système qui vous permet de vous abonner à une plateforme en ligne comme Deezer ou Spotify, hein, deux des leaders, pour en général 9,99€ par mois et de pouvoir écouter tout leur catalogue. Deux invités de choix vont inaugurer le MIDEM cette année et leurs interventions sont extrêmement attendues. Le nouveau patron de Deezer, plateforme française qui a conquis toute l'Europe, et une représentante de Tidal, plateforme lancée à grand renfort de soutien de stars par le rappeur Jay-Z il y a quelques mois. Aujourd'hui, 41 millions de personnes sont abonnées à une plateforme de streaming. Après 10 ans de cauchemar où l'industrie du disque s'est écroulée avec une perte de valeur de 60% en 15 ans, l'industrie voit dans le streaming un peu sa planche de salut, car quand ils streament, au moins, eh bien, les consommateurs ne téléchargent pas illégalement. Mais le débat reste assez vif entre les plateformes et les artistes et les labels pour qui le modèle ne rapporte pas assez d'argent, nous explique Jérôme Robert, président de l'Union des producteurs phonographiques indépendants.
C'est normal qu'un certain nombre d'artistes, voire de labels, hein, se posent la question ou aient des doutes ou des frustrations par rapport aux revenus que le modèle du stream génère à l'heure actuelle. Ce débat est tout à fait légitime dans la mesure où, je vous donne un exemple, concrètement, il faut 1000 streams, 1000 écoutes de stream pour reconstituer la vente d'un album. Donc vous voyez le grand écart en termes de revenus. Donc on a effectivement une interrogation aujourd'hui sur le niveau des revenus, mais un certain nombre d'analyses internationales nous indiquent qu'à horizon 2018-2020, le streaming par voie d'abonnement représentera la majorité des revenus des artistes et des producteurs de musique enregistrée. Loin devant le CD et loin devant le téléchargement, qui est un modèle plutôt déclinant.
C'était Jérôme Robert. L'industrie fait donc déjà beaucoup de compromis pour se satisfaire de cette solution du streaming. Et elle doit aussi faire face aujourd'hui à une possible remise en cause du droit d'auteur.
Et oui, car à l'heure du numérique, pour certains, le droit d'auteur plombe la transformation des secteurs, comme celui de la musique et bien sûr des films et des séries. Notamment au niveau européen, on considère que pour éviter le téléchargement illégal, eh bien, il faut faire de lourdes concessions sur le droit d'auteur. Un récent rapport de l'eurodéputée Julia Reda proposait d'harmoniser les droits d'auteur à l'échelle européenne, notamment en supprimant, je cite, les obstacles à l'accès au domaine public et à la réutilisation des œuvres qui y sont tombées. Andrew Sandsip, vice-président de la Commission européenne chargée de la stratégie numérique, sera présent en MIDEM pour essayer de convaincre le secteur musical qui considère que, contrairement au cinéma, eh bien, elle a déjà réussi à trouver ses propres solutions en faisant déjà beaucoup de sacrifices.
Que ce soit les sociétés d'auteurs, les producteurs, les artistes, tout le monde est mobilisé et oppose un front uni à certaines velléités qu'a à la fois la Commission européenne et un certain nombre de parlementaires. Je pense en particulier au fameux rapport de Mme Reda qui a fait couler beaucoup d'encre et qui veut non pas démanteler le droit d'auteur, bien sûr, mais qui veut multiplier des régimes d'exception sous prétexte de créer un marché unique dans le domaine du numérique, veut abaisser un certain nombre de barrières et affaiblir la gestion des droits d'auteur. Encore une fois, la musique, elle a accompli sa révolution numérique. Nous avons traité le problème du numérique de façon à satisfaire les besoins du consommateur.
Alors, le Premier ministre français Manuel Valls avait déjà prévenu lors du Festival de Cannes que lui serait absolument opposé à l'application de ce rapport en France.
Et tout de suite, on passe au bref.
Et l'on ouvre avec Netflix qui arrive en Espagne. Le groupe américain de vidéos à la demande fera ses débuts en octobre, près d'un an après son arrivée en France. Il sera donc présent dans 7 pays européens, la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, mais continue de payer ses impôts au Luxembourg.
Stéphane Lissner lance les avant-premières réservées aux jeunes à l'Opéra de Paris.
En tout, le directeur de l'Opéra espère attirer 100 000 jeunes sur les 800 000 billets vendus la saison prochaine, notamment grâce aux 25 000 places à 10 euros qui seront proposées lors de 13 avant-premières dédiées uniquement aux jeunes, un projet qu'il avait initié à la Scala de Milan et qui avait extrêmement bien marché. Ces avant-premières seront celles des nouvelles productions opéra et ballet.
Troisième édition pour le festival littéraire de Dijon, Clameur.
Le thème de cette troisième édition, qui aura lieu du 12 au 14 juin, est solidaire. Les acteurs locaux en lien avec le livre, la culture, associations, compagnies de théâtre ont été mises à contribution. Plusieurs librairies éphémères seront présentes dans la ville. Trois jours de rencontres et de débats parmi les très nombreux invités. On compte entre autres François Bégodeau, Jean-Marc Parisi ou encore Nicolas Rey.
Et la dernière.
Et la dernière, c'est une histoire de culture japonaise. Et oui, en l'honneur de notre invité qui croise la politique. Et oui, alors est-ce que vous connaissez Herman Van Rompuy? J'imagine que oui. Herman Van Rompuy a été Premier ministre belge. C'est surtout l'ex-président du Conseil européen. Eh bien, il a accédé aujourd'hui à une nouvelle fonction. Une fonction absolument magique puisqu'il a été nommé par le Japon ambassadeur du haïku, chargé de promouvoir ce fameux poème classique japonais dans le cadre des échanges culturels entre le Japon et l'Union européenne. Alors, vous connaissez le haïku, c'est un tercet de 17 syllabes poétiques qui résume un petit peu tout. Et en fait, Herman Van Rompuy en est un grand aficionado. Il a publié plusieurs
recueils. Tous les termes,
recueils.
C'est vraiment Babel, hein, dans la
Mais
bouche
non,
de
Mais non, et il a publié plusieurs recueils de haïku. Je pense que vous ne le saviez pas, moi en tout cas, je l'ignorais. Et il en récitait énormément lors de ses prises de parole. Il aime beaucoup commencer un discours par un haïku. Et il l'a souvent fait devant la presse internationale. Alors ce n'est pas une nouveauté puisque la ville de Matsuyama dans le sud-ouest du Japon, considérée comme le lieu de naissance du haïku moderne, a déjà fait de M. Van Rompuy un citoyen d'honneur en 2013. Comme quoi, les technocrates ne sont pas toujours là où on les attend.
Qu'est-ce que vous vouliez dire, Xavier Delaporte ?
Il écrit des haïkus en japonais ?
Il écrit des haïkus, alors il l'a écrit en belge, mais il lit le japonais aussi.
D'accord.
C'est un grand fan.
Ça vous impressionne ?
Ouais, tout à coup, Van Rompuy prend une dimension inattendue.
c'est ça que je voulais vous faire dire.
Akajimalo, vous voudriez, je sais pas, commenter quelque chose qui vous a été tout traduit par Aya qui est à côté de vous ?
Non.
Non, hein, je crois qu'on va commencer tout de suite. Allez, on y va.
Le rendez-vous, la session.
Plateau impérial avec vous, Teddy Papavrami, je dis vous, mais il est derrière moi en train de s'installer. Vous êtes violoniste, né en Albanie en 71, arrivé en France au tout début des années 80. Tous les articles s'accordent pour vous présenter comme un prodige virtuose, soliste et musicien de chambre à partir des années 90, traducteur attitré d'Ismaël Kadaré, on aura l'occasion d'y revenir. Et vous partagez en ce moment l'affiche de la troisième édition du festival Palazzetto Bruzzane au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. C'est vous et le pianiste François-Frédéric Guy qui clôturez l'événement demain lors d'une soirée intitulée Écho de l'Empire, Émilie Chaudet.
Et on va vous écouter tout de suite avec le caprice numéro 9 de Niccolo Paganini en direct du studio 108 sur France Culture. Teddy Papavrami, c'est à vous. Thank you.
De ranger l'instrument dans son étui. Émilie ?
Oui, ce répertoire des Caprices arrive très tôt chez vous. Vous avez 12 ans quand vous entendez une interprétation de Heifetz que vous qualifiez de lumineuse. En quoi elle vous a semblé lumineuse, cette interprétation ?
Oh, j'étais plus jeune encore, j'avais 8 ans, mais c'était une expressivité très acérée et puis évidemment une immense virtuosité. En tout cas, ça m'a parlé. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage, d'être admiratif des grands maîtres du passé.
Pourquoi avoir choisi ce morceau-là précisément
aujourd'hui?
Ouais, aujourd'hui. Alors que dans quelques jours, vous allez jouer un autre répertoire, même époque, mais un autre répertoire.
Il y a peu de choix dans le violon seul qui soit de la même époque. Donc, comme ici, il n'y a pas de piano, enfin...
Il peut y en avoir, mais bon.
On n'avait pas prévu de jouer avec mon partenaire François-Frédéric Guy, donc, je sais que j'étais venu l'autre fois, j'avais joué du Bach. Là, je trouvais que c'était vraiment anachronique de
cette partie-là. Ouais. Dans un entretien, j'ai pu lire que vous aviez évoqué certains passages des Caprices de Paganini que vous reprenez tous les jours pour contrôler, je cite, l'état de votre forme. Et je rappelle que vous aviez enregistré les Caprices pour un album en 2009. C'est toujours vrai?
Moins actuellement, mais enfin, disons qu'il y a toujours des formules techniques qui s'en rapprochent, qui sont assez, qui sont un peu la base de la technique du violon, effectivement. Enfin, ce qu'on appelle des gammes en double corde, et avec toutes sortes d'intervalles, et effectivement. Mais ça m'arrive, effectivement, de temps en temps, toujours de reprendre quelque chose pour, c'est une espèce de barème, en fait.
Pour savoir où on en est.
Oui.
Un mot sur l'instrument. Est-ce que c'est le Stradivarius de 1727 que la société Elmer Havach met à votre disposition, avec lequel vous avez joué?
Oui, exactement.
Qu'est-ce qui vous permet, cet instrument, de faire?
Ah, il a justement un son très, très lumineux, tout en ayant beaucoup de graves. Alors, évidemment, bon, ici c'est difficile.
Ici c'est difficile. Quelle est la difficulté justement de jouer ici dans ce studio?
C'est extrêmement sec, donc du coup il n'y a rien qui porte. Mais je sais que pour les auditeurs c'est différent, puisque les preneurs de son ont ajouté une réverbération qui n'est pas dans la salle. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'interprètes, ça nous inspire pas.
Donc, qu'est-ce que cet instrument vous permet et avec quoi vous jouiez?
Il a quelque chose de lumineux, même là, en fait. Évidemment, là, c'est très court et c'est peut-être pas dans Paganini qu'on s'en rend le mieux compte. Mais enfin, et je sais que même dans des acoustiques difficiles, j'arrive à trouver un timbre particulier. C'est le propre des Stradivarius, apparemment, d'avoir comme ça quelque chose de doré, et puis de temps en temps vraiment d'atteindre une espèce de scintillement, enfin quelque chose d'assez particulier.
Et dans quel répertoire est-il le plus opérant?
Je pense que ça va pour tout, parce que justement, il possède des graves également. Après, c'est difficile à dire. C'est une adéquation entre l'interprète et l'instrument qui pourrait déterminer quel répertoire conviendrait le mieux.
Émilie.
Alors, il y a un point commun entre ces Caprices de Paganini et la sonate à Kreutzer que vous allez interpréter demain au Bouffes du Nord, au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. C'est qu'elles ont été déclarées très difficiles par les musiciens de l'époque. Kreutzer avait peur de la jouer parce qu'il avait peur que le public ne comprenne pas.
Oui.
Beaucoup de musiciens, beaucoup de violonistes du 19e siècle avaient peur aussi que ces Caprices soient injouables. Vous, qu'est-ce que vous essayez d'explorer à travers ces œuvres-là?
Les Caprices, au départ, c'est vraiment l'apprentissage obligatoire, on va dire, d'une certaine technique qui a permis de grandes avancées dans le violon. Alors Paganini, c'était quand même un peu un météore, hein, c'était, même s'il était plus ou moins à la même époque que Beethoven, enfin en tout cas ils auraient pu se rencontrer, mais il était un peu en dehors. Beethoven était davantage inspiré par les grands violonistes et l'école française, en fait, qui était assez extraordinaire. Kreutzer était français, même si son nom ne sonne pas spécialement français. Et donc, on retrouve davantage, je dirais, ce côté-là chez Beethoven, enfin, mais qui est une base plus académique, on va dire, du violon.
Pourquoi Kreutzer pensait que c'était incompréhensible pour le public?
L'œuvre est totalement particulière. Alors, elle est très très particulière parce que, en fait, initialement, Beethoven l'a écrite pour un ami violoniste qui s'appelait Bridgetower, qui était métis, je crois, indien, quelque chose comme ça, métissé. Et ils étaient très amis et il a même dédié au départ la sonate en faisant un jeu de mots, une sonate mulatesca pour le lunatico Bridgetower. Et effectivement, si on l'écoute, on se rend compte que c'est une œuvre qui passe de choses furieuses à une espèce d'immobilisme et de mélancolie très subite. Et puis, il y a aussi ce côté peut-être un peu oriental, je ne sais pas si on peut dire ça, mais elle est extrêmement fantaisiste, quoi. Et pourtant, voilà, c'est le propre des très grands. On a l'impression que c'est une œuvre qui ne ressemble à aucune autre, même au sein de la création de Beethoven. Et pourtant, on a l'impression que c'est une évidence. Mais bon, ça c'est...
On va écouter tout de suite un son qui ne ressemble à aucun autre. C'est celui qu'on vous a demandé, un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi, Teti Papavrami. C'est tout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend? Ça vous a marqué? Un son qui vous a marqué, on demande.
C'est une bouteille de vin qu'on débouche. Non, mais en fait, c'était parce que, effectivement, j'essayais de trouver quelque chose où, avec mon partenaire François Federighi, où nous ayons une connivence particulière en dehors de la musique. Évidemment, j'aurais pu citer des tas d'œuvres, violon et piano. Or, effectivement, c'est un grand connaisseur et amateur de très bons vins. Et moi, je suis moins connaisseur, mais néanmoins très bon spectateur. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui nous aimons nous retrouver autour de ça.
Quel vignoble, plus particulièrement?
Alors lui, il est plutôt Bourgogne. Et il connaît bien beaucoup d'autres vignobles. Moi, ayant vécu à Bordeaux, c'est vrai que c'est beaucoup la région de Bordeaux et en particulier le Médoc. Alors, bon, lui prétend que les Bourgognes sont meilleures. Oui, c'est possible.
Mais... Vous avez fait une formation ou c'est simplement...
Ah non, pas du tout. Mais j'avais beaucoup d'amis qui sont dans le négoce du vin et qui est producteur également. Donc effectivement, j'entendais des conversations et ça faisait partie du quotidien pendant plusieurs années.
Voici l'explication. Émilie Chaudet.
Teddy Papavrami, vous commencez le violon quand vous avez 5 ans. Vous vivez à cette époque à Tirana, en Albanie. Vous faites d'ailleurs vos premiers concerts, comme vous l'avez rappelé, à l'âge de 8 ans. C'était au sein de l'orchestre philharmonique de Tirana. Est-ce que cette réputation d'enfant prodige vous a pesé?
Oui, ça a pesé en France particulièrement, parce qu'on associe volontiers l'image d'enfant prodige avec quelqu'un... De technicien ou comme ça. Alors évidemment, voilà, en choisissant Caprice de Paganini, je ne fais que renforcer l'idée reçue, mais c'est vrai que c'est une idée un peu absurde, parce que en fait tous les grands violonistes, enfin tous les enfants prodiges ne sont pas devenus des grands violonistes, mais tous les grands violonistes étaient des enfants prodiges, donc c'est un petit peu voilà, enfin. Et puis on a un peu de mal aussi, le public, à suivre, à se rendre compte quand même d'une évolution. Et effectivement, bien sûr, c'est une C'est un statut particulier, une enfance particulière, une vie particulière. Mais enfin, bon, toutes les vies le sont, je dirais.
Enfin, la vôtre est quand même assez surprenante. Hein. C'est le flûtiste Alain Marion qui vous remarque. À l'époque, vous avez 11 ans. Il vous invite à venir en France dans les années 80, au tout début des années 80. Peu de temps après, vos parents vous suivent, demandent l'asile politique en France, hein, puisqu'il fuit le régime communiste albanais. C'est une période plutôt difficile, puisque les membres de votre famille restés en Albanie vont subir des représailles hein, pendant plusieurs années. Vos grands-parents seront déportés, internés jusqu'à la chute du régime en 91. Comment vos parents vous ont parlé de cette histoire sur laquelle vous revenez dessus en 2013 dans une autobiographie « Fugue pour violon seul » Et est-ce que ça a pu avoir une influence ou un impact sur votre façon de jouer ou sur le répertoire que vous avez travaillé à cette époque-là?
Ah oui, ça a eu un impact, étant donné que ça a eu un impact très important sur moi. Forcément, ça en a eu un dans ma façon de jouer. Probablement qu'à l'époque, mon jeu est devenu très tendu, parce que effectivement, le fait d'avoir cette espèce de responsabilité et puis de détresse, qui, je pense, ne partira jamais totalement en moi, eh bien, ça a quand même, ça a façonné mes goûts, ma personnalité. Et aussi, il y avait un côté, il fallait justifier toutes ces choses abominables qui se passaient pour la famille. Mais par contre, mes parents n'ont pas spécialement filtré. J'ai vécu les choses avec eux. Pendant pas mal de temps, on pouvait avoir aucune nouvelle. On a commencé à en avoir, mais vraiment d'une manière, illicite par rapport au régime albanais. Donc, quelqu'un a pris le risque de nous informer en cachette, en risquant lui-même. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir des bribes de nouvelles, puisqu'il n'y en avait aucune qui était officiellement possible.
Vous êtes retourné, je sais, depuis jouer en Albanie, très vite, hein, après la chute du mur. Vous avez notamment pu revoir votre grand-père. Qu'est-ce que vous aviez choisi de jouer là-bas pour votre retour?
C'était un panaché. Il y avait du bar, une partita de bar, avec la chaconne, du Ravel, du Fauré, non, de la sonate de Franck. Oui, on va dire que voilà, des choses qui rappelaient à la fois la France, à la fois ce qui me semble fondamental dans la musique, à savoir la musique de bar, et puis aussi de la virtuosité.
Est-ce qu'il y a des compositeurs albanais ou un répertoire albanais que vous auriez envie de défendre un jour, s'il existe?
Je ne le connais pas très bien. Je connais évidemment le répertoire albanais de mon temps, mais évidemment que la création musicale était extrêmement contrôlée. On pouvait pas du tout sortir de la tonalité. En plus, il fallait toujours écrire des œuvres d'inspiration folklorique qui puisent vraiment dans le terroir. Donc, il y a eu des belles choses, mais enfin, effectivement, c'est un peu en porte-à-faux par rapport à l'époque où elles ont été écrites, puisque c'était dans les années 70, 60. Or, la musique au niveau mondial, et c'était moins avancé que Shostakovich, par exemple, encore, puisque l'Albanie était encore plus puriste, on va dire, dans son choix de communisme.
Milly.
Demain soir, vous êtes donc au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris pour la troisième édition du festival Palazzetto Brusane.
Oui.
Vous êtes avec le pianiste François-Frédéric Guy.
Oui.
Et vous interpréterez donc une sonate de Louis-Ferdinand Hérold, une autre de Daniel Steibelt et 5 études pour piano d'Hélène de Montgeroux. Quel est le dénominateur commun entre tous ces compositeurs? Quel univers ils composent pour vous?
C'est un univers, c'est cet univers très particulier de bascule entre le classicisme et les prémices du romantisme. Dans Beethoven, en revanche, là, on est déjà dans quelque chose. Puis de toute façon, Beethoven est hors norme, je dirais totalement. On peut s'en rendre compte justement quand on voit les compositeurs de son époque. Mais là, effectivement, on sent à la fois, évidemment, on est dans l'héritage mozartien. Ce qui frappe également, c'est que je pense que pour la musique française, il y a, disons, plus tard, les choses se sont dessinées magnifiquement, et puis tout à coup, voilà, il y a une identité française extrêmement évidente. Mais à cette époque-là, on a l'impression que les sources sont allemandes, en fait. Donc, c'est assez. Mais on sent néanmoins des choses particulières. Enfin, il y a parfois des audaces qui surprennent et qui n'existaient pas forcément chez des compositeurs de plus grand grande envergure, comme Mozart par exemple, puisque la sonate de Steibelt, elle est contemporaine de Mozart, et on sent quand même ça se dirige davantage vers le romantisme, je dirais. Enfin, c'est très intéressant. De toute façon, c'est une découverte aussi pour nous, puisque c'est grâce au travail du Palazzetto Brusan que nous avons accès comme ça à des répertoires que nous aurions du mal à extirper de la masse de musique écrite.
Accadimaro, dans quelques instants, on parlera de danse, on parlera de théâtre. Est-ce que vous avez une formation musicale? Est-ce que vous avez joué d'un instrument?
Maro-san, 今まで楽器などは演奏されてきたことありますか今
No. これ、triangle.
Le
triangle.
小学生の時に。
Quand j'étais à l'école primaire.
Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment.
Mais j'étais un peu en retard toujours avec l'ensemble.
On reviendra donc sur une question de rythme parce que vous l'avez, mais du côté de la chorégraphie et du théâtre.
Alors, vous avez dit en ouverture, que vous avez été le traducteur, que vous êtes toujours le traducteur d'Ismaïl Kadaré, et que vous le connaissiez. C'était quoi la première œuvre que vous avez traduite de lui?
Je crois que c'était une nouvelle. Hein.
C'était un recueil de nouvelles. Ouais. En fait, c'est une nouvelle, c'était Le Chevalier au Faucon. Ça faisait partie d'un recueil de nouvelles sous le nom de L'Envol du Migrateur. Voilà. Donc
ça... Pourquoi vous aviez choisi... Parce que je crois qu'au départ, vous lui envoyez une nouvelle, et c'est à partir de cela que votre carrière de traducteur d'Ismaïl Kadaré va se faire.
Je le connaissais déjà, oui. Enfin, c'était un ami, mais je lui ai envoyé un essai de traduction de quelques pages de cette nouvelle-là, parce qu'il s'est trouvé que je l'ai lu chez mes parents et que je ne travaillais pas mon violon pendant quelques jours, ce qui ne m'arrive pas souvent. Alors du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer, et puis après, je me suis dit, voilà. Et en fait, après, c'est Claude Durand qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps.
L'éditeur.
L'éditeur qui évidemment a lu et a décidé que je traduirais ses œuvres.
Vous traduisez d'autres auteurs? Vous êtes essayé à d'autres auteurs?
Non, parce que
vous avez hésité. Vous avez commencé.
J'ai traduit mais des œuvres quand même sur Kadaré, d'autres auteurs, mais enfin disons que c'était plutôt un travail de documentaire, enfin autour de ses œuvres, donc c'était pas de la littérature réellement. Et je n'aurais pas le temps parce que déjà c'est très limite pour moi de traduire les œuvres de Ismaïl.
De cette expérience de traducteur, vous avez dit qu'elle vous a permis d'exister en dehors du violon. Pourquoi c'était si important pour vous d'exister en dehors de la musique? Qu'est-ce qu'elle ne vous permettait pas de dire que la traduction vous a permis d'exprimer?
C'est vrai que je suis très attaché aux mots, dans le sens où si je devais m'exprimer en tant que créateur, entre guillemets, ça serait plutôt à travers l'écriture que la musique, en fait. En musique, je me sens interprète profondément, mais vraiment interprète. Après, c'était aussi le fait d'avoir une activité professionnel, parce que c'est vrai que c'était surprenant, mais c'est ainsi, n'ayant pas du tout fait d'études, je m'étais dit que je ne ferais que jouer du violon et faire de la musique durant toute ma vie. Donc c'est vrai que ça avait comme ça une espèce d'ouverture et d'espace de liberté, puisque c'était une chose quand même qu'on n'avait absolument pas attendu de moi, jamais. Or, on avait attendu beaucoup concernant le violon. Donc, effectivement, ça a permis comme ça une ouverture.
Le rendez-vous, la chronique.
Tati Papavrami, on va vous retrouver dans quelques instants, ainsi qu'à Kadjimaro, mais tout de suite, c'est la chronique Place de la Toile de Xavier Delaporte, en partenariat avec Rue 89, le site en ligne dont vous êtes le rédacteur en chef. Aujourd'hui au programme, donc une nouvelle, vous avez expérimenté quelque chose?
Oui, j'ai une hypothèse que j'ai essayé de formuler clairement à partir d'un exemple. J'ai très, très didactique.
Ah, j'adore ça, on dirait.
Le 3 juin dernier, donc mercredi, France Télévisions a lancé une nouvelle application mobile dont le principe est malin. Elle s'appelle Zoom et elle fabrique pour l'usager une sorte de montage de programmes diffusés par France Télé en fonction de critères que cet usager a préalablement définis. Par exemple, le temps dont il dispose pour regarder, 5 minutes, 10 minutes, etc. Les émissions qu'il aime et les thèmes qui l'intéressent. L'idée étant de lui proposer donc une sorte de Watcher Digest, personnalisées de programmes qu'il a manqué ou veut revoir. Alors on peut analyser le lancement de cette application de diverses manières, mais l'une d'entre elles me semble tout à fait symptomatique de ce que l'Internet peut produire en termes de rapport au temps. Que ce soit de manière professionnalisée, comme c'est le cas ici, ou de manière beaucoup plus participative et anarchique, comme c'est le cas sur d'autres plateformes de vidéos comme YouTube, mais ailleurs, j'ai l'impression qu'Internet est en train de constituer une nouvelle strate temporelle qui se situe entre le temps immédiat et l'archive. Une strate temporelle qu'on pourrait appeler le temps du rattrapage. En anglais, on parle de catch-up TV, vous savez, pour désigner les émissions qui viennent d'être diffusées, qu'on peut regarder sur le web. Mais en vérité, le phénomène dépasse largement le champ de la télévision. Pour être un peu caricatural, avant, d'un côté, vous aviez le temps réel, l'immédiat, le direct, et de l'autre, vous aviez l'archive. Mais pas grand-chose entre les deux. Ça signifiait que quand vous aviez raté quelque chose, un fait d'actualité, une phrase prononcée, une image, un but, ou que sais-je, les moyens de le retrouver étaient restreints, si ce n'est dans des services qui n'étaient pas faciles d'accès, les services d'archives, hein, mais qui, surtout, opéraient une forme de sélection, en tout cas de classement, car tout ne fait pas archive. Or, la numérisation massive, combinée à l'accroissement des capacités de stockage, mais aussi au fait, très souvent oublié, que les internautes passent leur temps à stocker, indexer, mettre en ligne toutes sortes de contenus, fait qu'aujourd'hui, vous pouvez presque toujours retrouver quelque chose. Et on retrouve des choses qui n'auraient pas forcément eu leur place dans des archives classiques qui sont constituées, elles, dans l'idée d'une utilité à venir, alors que ces choses qu'on recherche souvent n'auraient pas passé le cap de cette utilité à venir. J'ai le sentiment, donc, que cette strate temporelle tend à s'étoffer. C'est par exemple le système du podcast en radio, évidemment, mais toutes les formules existantes hein, sur les sites de « si vous n'avez rien suivi aujourd'hui » ou alors « les actus du week-end », etc. Tous ces contenus dont le but est de vous remettre à jour, de vous aider à rattraper ce que vous avez manqué parce que vous faisiez autre chose, parce que vous étiez déconnecté, etc. Et ça recoupe tout un ensemble de pratiques que l'on a aujourd'hui de manière très courante. C'est par exemple le fait de remonter sa timeline sur Twitter, sur plusieurs heures, plusieurs jours, ou son fil d'actu sur Facebook. Donc littéralement de parcourir le temps à l'inverse pour voir ce qui s'est dit pendant notre absence de la plateforme. Ou même, c'est remonter la timeline de quelqu'un, de voir tout ce qu'il a écrit, du dernier post jusqu'à une date indéterminée, ou déterminée par notre seule patience. Étrangement, on parle beaucoup, tout le temps, de l'immédiateté du web, même de l'angoisse qu'il procure de rater quelque chose. On parle aussi de l'archive, de l'accès aux archives, de la conservation, etc. Mais on parle beaucoup moins de cette possibilité qu'offrent les technologies de revenir en arrière sur un temps court, de rattraper ce qu'on a manqué. À titre personnel, et je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, moi j'ai passé mon enfance à avoir peur de manquer à la radio telle chanson que je voulais entendre, et même parfois que je voulais enregistrer, et dont j'avais d'ailleurs systématiquement raté le début, parce qu'on, à cause du temps, avoir peur de rater un film, ou à devoir, ce qui était vraiment dramatique pour moi, à devoir attendre Téléfoot pour voir le dimanche, donc pour voir un but dont j'avais entendu parler toute la semaine et que j'avais lu la description dans les journaux. Aujourd'hui, je suis complètement débarrassé de cette angoisse, et pleinement rassuré par la certitude de trouver quelque part, dans les réseaux, ce que j'ai manqué, même si c'est très bête, très futile et voué à aucune postérité. Parce qu'il y a presque toujours, quelque part, quelqu'un qui a décidé que ça valait, au moins temporairement, le coup d'être partagé. Et j'avoue trouver une sorte de beauté à ce temps intermédiaire, parce que bien souvent, la personne qui nous permet de nous rattraper, de calmer un peu l'angoisse du truc raté, ben c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais et qu'on ne remerciera pas.
Est-ce que vous cherchez des choses particulières sur Internet, de remonter le temps, de regarder des choses particulières, je ne sais pas.
Si, tous les musiciens, il y a des documents.
Des interprétations, fétiches, des choses comme ça.
Absolument. Avant, c'était tellement difficile. J'ai attendu des années avant de pouvoir visionner une vidéo d'iFet qu'on m'avait apportée des États-Unis, mais il fallait trouver le système qui permette. Alors que maintenant, en un clic, on peut le voir et enfin, ça semble irréel. Mais enfin, comme quoi, après, on s'habitue à tout. Et puis, effectivement, les podcasts, j'écoute notamment pas mal de France Culture.
En podcast?
Oui.
En direct.
J'habite en Suisse, et puis non, parce que voilà, avec les journées de travail, etc., alors que là, ça permet de sélectionner les choses qu'on a envie d'écouter. Enfin, et puis c'est vrai que moi, je ne suis pas tellement dans l'actualité. J'ai plutôt besoin de choses qui s'en échappent. Ça me rassure.
Le rendez-vous.
Plateau cher avec vous, Akadi Maro, chorégraphe, metteur en scène, acteur, le boss Ozawa dans les deux Kill Bill de Quentin Tarantino, c'est vous. Vous êtes aussi maître de buto, c'est une danse née au Japon dans les années 60 et qu'on présente souvent Et c'est pas forcément juste comme une réaction au traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, hanté par des croyances shinto et le courant surréaliste. Est-ce que c'est votre vision de la danse buto, alors que j'ai pu lire que votre définition serait plutôt celle d'un buto cubiste?
まあ、あの原爆神道シュロレアリスムという、まあ、もちろんあの通底するところは、まあ、何にでも通底してしまうというところがありますね、舞踏は、ですからキュービルズと言われればそれはまたそうい
う Je dirais que de toute façon on a toujours des points communs en tant que japonais avec la bombe atomique, le shintoïsme et le surréalisme. On peut toujours trouver des bases qui correspondent à ces mouvements ou ces éléments-là. Et pourquoi mon buto est cubiste?
Non, 例えばそのキュービズムと自分で名付けたことはないんですけれどね。
C'est ce qu'on me dit souvent.
まあ基本的に人間というものは非常に多面体であるということは、あの、まあ。
Mais je me dis que c'est en fait un aspect, l'homme est multifacette de toute manière, donc ce n'est pas nouveau.
そういう視点から踊りを作るという。
Et c'est mon point de vue de la danse quand je crée de pouvoir exprimer cette multifacette de l'homme.
Alors la danse buto, pour vous, ça a commencé à l'âge de 21 ans, dans les années 60. Avant cela, peu de temps avant, d'ailleurs, vous faisiez du théâtre. Quel était le théâtre que vous pratiquiez au Japon dans les années 60? Qu'est-ce qu'il venait défendre ou aller contre?
C'était du théâtre très destructeur.
まあ、既成の日本の伝統、あるいは、あの、ヨーロッパから来た、いろいろのシェイクスピアとか、そういうウェルメイドの。
On voulait aussi, détruire tous les normes qui existaient dans le théâtre occidental qu'on avait importé de l'Europe, le théâtre traditionnel japonais.
どちらかというと、あの、不条理劇、ヨネスコに、フランスのヨネスコとか、ああいう、あとはあれかな
Le théâtre absurde de Ionesco.
あれは指王とかね砂利の
Le roi Ubu.
そういうこのかなり破壊的な
Ce registre nous plaisait bien par contre.
意味不明なと言いますか
Parce que dans l'absurdité, il y a une force de destruction.
そういう思考の芝居ですね
Donc le théâtre que nous créons à l'époque était proche de cet univers-là.
ですからそれを日本語もちろんその翻訳ものではないんですけれどもまあ勝手なあの
Mais nous créons également nos propres pièces
で、まあ、自分たちで作ってやるという方法ですね
En japonais et nous créons aussi un nouveau théâtre à l'époque.
C'était dans les années 60. Et le buto va ensuite poursuivre cette avancée-là. Émilie,
vous êtes à Paris à Kujimaro avec votre compagnie Daira Kudakan que vous avez créée en 1972. Le nom signifie le vaisseau du chameau. Chameau en référence à ce qu'en fait Nietzsche, avez-vous dit dans Ainsi parlait Zarathoustra, à savoir une métaphore de l'homme croulant sous le poids du devoir et vaisseau. Vous l'avez encore dit en interview en hommage à votre père mort lorsqu'il était dans la marine. Quelle vision de la danse vous voulez défendre avec cette compagnie ?
Dans les années 70, à cette époque-là.
C'est pas de la... Je voulais pas défendre, mais plutôt attaquer le monde extérieur.
C'est vraiment le boss de Kill Bill.
J'avais rien à protéger ou à défendre.
Kabuki ぶっ壊してしまえとかね。
Je voulais casser le kabuki, le no.
進撃というまあね戦後明治時代から来た、ねヨーロッパ。
Ou le théâtre moderne japonais importé de l'Occident. Et donc la notion c'était plutôt on fonce. Donc c'était pas la protection, mais c'était plutôt on fonce tous ensemble.
しかもラクダというのはあの、まあ、ニーチェなんで一番あのかっこよく見えますけれども、まあ獅子の時ライオンの時ねそれから、ラクダの時赤子の時
と a donné une métaphore de transformation de l'homme, du chameau au lion et jusqu'à l'enfant, et la phase du chameau est un animal qui vit dans le désert, on ne sait pas ce qu'il mange mais il arrive à survivre, il n'a pas de chemin. Il avance dans ce chemin qui n'est pas tracé. Et c'est un mot qui, c'est un animal qui m'a beaucoup plu dans la notion de la patience dans le chemin que je suis.
Teti Paparami, un commentaire par rapport à tout ce que vous venez d'entendre. Je sais que vous êtes un amateur de danse. Vous avez d'ailleurs travaillé, je crois, avec.
Oui.
Ouais, avec Nicolas, avec Nicolas Paul, c'est ça. Oui, oui. Le buto, c'est une danse que vous connaissez un peu?
Non, malheureusement pas. Mais en plus, j'aime beaucoup le Japon. J'ai eu le plaisir de m'y rendre 3 fois et je ne demande qu'à découvrir. Mais cela dit, j'entends des propos qui me parlent, en tout cas, concernant justement... moi aussi, ça m'a frappé, la métaphore du chameau, dans Ainsi par les Zarathustra, et j'y ai souvent pensé dans
propre parcours, je peux imaginer. Akaji Maro, vous présentez 2 spectacles à la Maison du Japon à Paris. Ode à la chair, c'est une pièce pour 10 danseuses, mise en scène, non pas par vous, mais par l'une de vos plus anciennes danseuses, Emiko Agatsuma. Puis, ce sera L'univers des insectes, une de vos créations pour 22 danseurs, et là, vous y êtes. D'abord, un mot sur la première, donc Ode à la chair. Les danseuses sont d'abord enfermées dans des filets, prises au piège contre un mur, enfermées dans du film plastique, dont elles finissent par se libérer. Je sais que vous avez suivi la création, vous l'avez supervisé, vous l'avez critiqué, des femmes sur le plateau dirigées par une femme. Est-ce que ça change véritablement quelque chose dans l'approche de la danse et dans ce qui s'y raconte ?
Je pense qu'il y a une certaine cruauté quand une femme chorégraphie les femmes. Quand je chorégraphie, surtout les femmes japonaises ont une fragilité, donc je ne peux pas m'empêcher de m'attendrir, donner une douceur dans mes directions. Mais quand ce sont entre les femmes, il y a un côté presque sadique dans le travail.
Ça vous fait même rire.
Je me dis, elle ose bien forcer, elle force bien les autres danseuses à faire ceci. Je pense que les femmes sont plus courageuses que les hommes.
Émilie.
Il y a quelques jours, la Maison de la Culture du Japon organisait un hommage à la chorégraphe de buto Carlota Ikeda, décédée en septembre dernier. Une chorégraphe qui a collaboré avec votre compagnie avant de venir s'installer en France. Quel souvenir vous gardez de ce qu'elle a pu apporter à votre compagnie ?
Carlota no saisho no odori wa boku ga furitsuketa Mesukazan tteyu ne.
La première pièce que Carlota a présentée, c'était une chorégraphie à moi. Elle vient d'un pays où il neige beaucoup, un petit village du département de Fukui, du côté de la mer du Japon. C'est pourquoi elle a beaucoup de patience dans son travail. Avant, c'était une très bonne danseuse de danse moderne. Il y a un des danseurs qui est allé la draguer et finalement, elle s'est intéressée à notre travail. Elle a frappé à notre porte en demandant de participer à nos activités. Mais je pense qu'elle voulait trouver quelque chose de nouveau qu'elle n'arrivait pas à trouver dans la danse moderne. Et là, c'était flagrant. Elle s'est débarrassée de tout ce qu'elle avait acquis. Elle est littéralement devenue nue. Et elle a offert son corps sur le plateau. Vous savez, elle est plus âgée que moi.
Elle était.
À l'âge de 30 ans, elle a eu le courage de se débarrasser de tout.
それでメス火山というのが、まあ、非常にセンセーショナルな舞台で。
Donc, la première pièce intitulée Le volcan féminin。
まあ、ある高名な日本の吉岡実という詩人なんかが絶賛して。
A été très apprécié des artistes de l'époque, notamment un poète, 吉岡。
まあ、僕も彼女をさらってきた甲斐があったなという気分でしたね。
Et j'étais plutôt satisfait d'avoir pu la kidnapper du monde de la danse moderne.
Et ensuite, elle s'est enfuie, enfin, s'est exilée en France puisqu'elle est arrivée dans les années 80, portée par cette danse buto traitée sur le mode de la moderne danse, et elle y est restée ici. Comme à tous nos invités, on vous a demandé un son, Kajimaro, et voici ce que vous avez choisi.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent. Les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam.
Bon, je ne vais pas vous demander qui on entend, tous reconnus, mais la raison pour laquelle vous l'avez choisi, pourquoi avoir choisi Jacques Brel ? Kajimaro ?
Ce qu'il a pensé.
C'est parce que j'adore. Alors, je ne comprends pas un seul mot.
C'est
sa voix.
Et
je sens une sorte de matière de parole qui est envoyée vers moi. Je suis complètement sous le charme de cet artiste.
Vous l'avez regardé en vidéo ?
Non.
Vous ne savez pas à quoi il ressemble.
Je sais qu'il n'est pas très, très beau. Il a l'air un peu bête. Et sa moitié est très beau, mais à partir de la bouche, il a un petit défaut, je pense. Mais tout ça s'envole quand on l'entend chanter. Personne n'est parfait de toute façon.
Je pense que ça fait partie de l'apprentissage d'être admiratif des grands maîtres du passé.
Non.
Merci à nos invités. Teddy Papavrami, vous serez demain en concert au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris dans le cadre du festival Palazzetto Bruzzan. Akarimajo, Ode à la Cherche jusqu'à samedi et La Planète des Insectes à partir de mercredi prochain jusqu'au 20 juin à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
21e siècle, l'espèce humaine a colonisé le seul endroit inexploré de la Terre, les océans. Moi, commandant du Sequest, ainsi que mon équipage, en sommes les gardiens. Notre avenir est lié à la sauvegarde des océans.
Demain, une émission climatique dans le cadre de l'opération 24 heures climat. Quel temps fait-il sur France Culture avec l'architecte Philippe Ram et Romain Troublé de la Fondation Tara. Avec nous aussi deux élèves de Sciences Po qui ont participé à la simulation des négociations COP21 organisée par Sciences Po et enregistrée au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on aura ?
Je ne t'apporterai que des nouvelles vagues.
Eh bien, la semaine prochaine, c'est le teaser fait maison. Toute la semaine prochaine, ce sera 40 ans de chansons françaises en 5 jours. C'est juste une question de rythme dans le rendez-vous. Lundi, Kent. Mardi, Dominica, qu'on entend. Mercredi, Nash. Jeudi, minuit, avec Fred Vargas. Et puis vendredi, Rap Machine, avec This is La Peste. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Émilie Chaudet, avec cette Wendoy et Elsa Béranger, journal de la culture Zoé Sfès, chronique Xavier Delaporte, traduction Aya Soyejima, à la prise de son Jean-Guillain Meige et Alex Dang, et à la réalisation Thomas Beau.
C'était parfait, il est 19h54, vous êtes sur France Culture, et c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès, de la comédie
française.
Alors bonne soirée à tous, et à demain.